Le bronze moyen, la dernière fois, on a vu un petit peu tout ce qui était les principaux objets qui étaient typiques et caractéristiques de cette époque, c'est-à-dire essentiellement les poteries, bien sûr, mais aussi les armes. Et alors, nous avons vu que le bronze moyen se décompose en trois périodes, pourrait-on dire. Une première période, donc, qui est une période intermédiaire. Certains, d'ailleurs, archéologues, nous l'avons vu, refusent de rattacher cette période au bronze moyen, mais en font un appendice du bronze ancien. Période donc qui se caractérise par l'effondrement de toutes les cultures précédentes, c'est-à-dire de l'ancien empire en Égypte et de la civilisation, suméro-acadienne en Mésopotamie, avec arrivée donc de Bédouins du désert qui s'installent dans les pays fertiles, profitant justement de la période de faiblesse qui caractérise cette période-là, si bien que c'est une période de chaos. Cette période donc se trouve être rétablie à la période suivante, donc à la période du bronze moyen 2A, pardon B, c'est bien ça, oui, je ne me trompe pas, oui, 2B, donc qui va de 1900 à 1750 environ, pardon, c'est 2A, pardon, la première c'est bronze. Bronze moyen 1, la période intermédiaire, bronze moyen 2A, donc la première période 1900-1750. Alors ça, c'est, si vous voulez, la grande période du rétablissement comment dirais-je, des États. Il y a une renaissance des grands États en Égypte et en Mésopotamie. Et partant donc automatiquement dans le pays d'Israël et la Syrie qui subit les conséquences de ce qui se passe dans les grands empires, dans les deux grands empires qui sont au nord et au sud. En Égypte, nous l'avons vu, donc c'est l'apparition de la 18e dynastie, qui est une des grandes dynasties égyptiennes, 18e et 19e dynastie, qui sont donc. Pardon, qu'est-ce que je dis des bêtises ce soir, je suis pas fatigué, 11e et 12e dynastie. Et donc là, si vous voulez, les deux grandes dynasties qui vont donner naissance au Moyen-Empire égyptien. Le Moyen-Empire égyptien est un empire qui apparemment contrôle l'essentiel du pays d'Israël. Si on dit l'essentiel du pays d'Israël, ça veut dire essentiellement les routes, les voies de communication, et plus spécialement la route de la mer. Et là, donc, nous avons une espèce de vassalage des cités-États qui marquent le pays de Canaan, parce que dès cette période-là, le pays de Canaan apparaît comme un pays qui est constitué essentiellement de cités-États. La raison est simple, c'est que le pays d'Israël est un pays extrêmement accidenté, sur le plan géographique s'entend, et ce qui fait que, il n'y a pas de véritable empire unifié qui va pouvoir s'installer à cette période, en tout cas dans le pays d'Israël. Deuxièmement, parce que justement le peuplement qui commence à apparaître à cette période-là comme une entité en soi et qui va devenir le peuplement cananéen, c'est la civilisation cananéenne au sens historique du terme, donc prend son sens à partir de cette période, c'est-à-dire à partir du bronze moyen 2, et cette population est tout à fait hétérogène. Bon, finalement, il y a trois grandes zones de peuplement, les régions côtières, avec des populations qui vont former les populations dites phéniciennes beaucoup plus tard. Ça veut dire essentiellement sur les côtes nord, qui sont beaucoup plus découpées, qui permettent l'installation de ports importants. Donc là, on va avoir création d'une civilisation maritime extrêmement développée, qui vit en symbiose avec l'Égypte, qui d'ailleurs, à la période de la 12e dynastie, va être une grande puissance maritime qui va commercer avec les deux mers qui l'abordent, c'est-à-dire essentiellement avec la Méditerranée, mais aussi la mer Rouge. Le Sésostris, le grand pharaon de la 12e dynastie, va entreprendre des expéditions maritimes en mer Rouge. Il va donc avoir armé des bâtiments qui vont peut-être même déjà dès cette période-là faire le tour de l'Afrique. C'est possible. Déjà, bon, peut-être aussi des navigations en direction de l'Amérique. C'est aussi une possibilité qui n'est pas écartée par les archéologues et par les historiens. Donc, il va y avoir création dans les villes phéniciennes enfin qui deviendront plus tard les villes phéniciennes, on ne peut pas encore parler de villes phéniciennes à cette période-là, une civilisation maritime qui va vivre en symbiose avec l'Égypte sur le plan justement des échanges maritimes. Les villes de Phénicie vont être aussi le débouché de l'autre empire qui va naître à cette période-là et qui est un empire qui est marqué, lui, par ce qu'on appelle la Renaissance babylonienne. Nous avons vu que les empires néo-sumériens qui ont donc succédé à l'empire akkadien de Sargon et de ses successeurs se sont effondrés sous le coup des barbares. Et en même temps, donc, il y a là, à partir de 1900, une renaissance, alors cette fois-ci autour de la ville de babylonienne, à partir de rois, de dynasties qui sont entièrement nouvelles sur l'histoire, qui sont composées essentiellement de tribus qui sont venues du désert, mais qui vont finalement reprendre à leur compte l'héritage des Sumériens et des Akkadiens. Et les rois de l'empire babylonien qui va naître à cette période-là se qualifient eux-mêmes de rois de Sumer et d'Akkad. Maintenant, ces rois ont aussi deux débouchés, un débouché sur le sud, évidemment sur le golfe Persique, qui les amène éventuellement à commercer avec l'Inde, et puis aussi, évidemment, quand on remonte sur le nord, par le bassin du Tigre et de l'Euphrate, on arrive directement en Phénicie, sur les villes de la Méditerranée. Si bien que les villes phéniciennes vont occuper une position stratégique extrêmement importante, parce que là va se croiser d'une part le commerce maritime qui vient de l'Égypte, et en même temps le commerce pourrait-on dire terrestre, lui qui arrive alors de Mésopotamie, remontant par le nord et en direction de l'ouest, et qui va être redistribué en Égypte par voie maritime. Donc ici, ces villes vont occuper un rôle très important et vont connaître un développement aussi extrêmement important. Aussi au point de vue civilisationnel, parce que ça va être le carrefour où toutes les cultures, la culture égyptienne, la culture mésopotamienne se rencontrent. Bon, sur les côtes plus au sud, c'est-à-dire justement à partir de, si vous voulez, de Haïfa moderne jusqu'à Gaza, on a aussi une population qui s'installe là et qui va être vassale, nous avons vu, des Égyptiens. Et le fait que justement la côte est rectiligne fait que l'installation de ports est beaucoup plus difficile. Tant et si bien que, alors qu'au nord on aura une population tournée vers la mer, on aura au contraire au sud de la côte une population tournée vers le commerce terrestre, le commerce de caravanes, essentiellement de caravanes d'ânes à cette période-là. Le chameau est encore, bien que connu, est encore peu développé, en tout cas pas sur une grande échelle. Ensuite, on a la région montagneuse. Alors, les régions montagneuses qui sont d'accès difficile, qui sont couvertes à cette période-là de forêts denses, avec des animaux sauvages peu sympathiques. Et surtout, le gros problème de ces régions, c'est que les sources sont extrêmement rares, les cours d'eau naturels aussi. Et de ce fait, les endroits cultivables aussi ne sont pas très développés, ne sont cultivables en fin de compte que les lits des ouèdes, c'est-à-dire ces torrents qui ne coulent que lorsque les pluies tombent, ça veut dire quelques semaines au mieux dans l'année. Et le reste du temps, bien sûr, il y a une espèce d'humidité qui est imprégnée dans le sol et qui fait que les lits des ouèdes sont donc cultivables. Et donc va se créer là une civilisation éparse qui va être peu nombreuse dans la mesure où justement le lit de ces ouèdes ne permet pas de faire vivre beaucoup de gens. On ne connaît pas encore vraiment à cette période l'usage de la citerne qui va permettre ensuite le développement de cette région, mais ça c'est quelque chose qui viendra beaucoup plus tard. Donc si vous voulez, la région montagneuse est peu peuplée par des régions, les anglo-saxons appellent ça les Highlanders, les montagnards si vous voulez, qui sont donc ce que la Bible appelle les Amoréens. Donc Amoréens, Cananéens le long des plaines côtières et Phéniciens, si vous voulez, le long de la côte nord, les villes maritimes. Bon, ces populations sont en principe vassales de l'Égypte. L'Égypte qui, étant son empire donc sur toute cette région qui est vitale pour elle, pour deux raisons. La première, parce que justement l'Égypte a subi un traumatisme avec l'invasion des nomades. Et le but, justement, des pharaons de la 11e puis de la 12e dynastie, c'est l'installation de zones tampons. Et là, donc, les États cananéens qui se créent à cette période-là, qui sont des petites cités-États, nous avons vu, servent de tampons pour empêcher l'invasion des Asiatiques à l'intérieur du delta. Ça, les pharaons, évidemment, ce sera une constante de leur politique. Et c'est le problème, c'est d'administrer justement ce conglomérat disparate de petites cités-États, qui sont par principe justement jalouses de leur autonomie et qui non seulement ont toujours tendance à se révolter contre le pharaon, mais aussi qui ont tendance à se battre les unes contre les autres. Par conséquent, le pharaon installe des places fortes aux endroits stratégiques sur les grands axes. Gaza, bien sûr, Gaza qui est la première station quand on arrive d'Égypte, évidemment, dans le pays d'Israël. Bon, Jaffa, qu'est-ce qu'il y a encore? Et puis surtout, bien sûr, la grande place forte à cette période-là, c'est Megiddo. Megiddo qui commande le débouché du Wadi Hara, donc le passage de la plaine côtière jusque dans la plaine d'Israël, et par conséquent ensuite la route qui remonte ensuite au nord du lac de Tibériade en direction de Damas, du désert, par Tadmor, Palmyre, et puis ensuite la haute Mésopotamie, le haut Euphrate, donc une région essentielle. Aussi, nous trouvons l'importance de la ville de Hatzor, mais ça, nous y viendrons justement dans un instant. Nous avons vu la dernière fois que toutes ces régions, qui est encore au XXe siècle, 19e, 20e siècle, une région qui est peu urbanisée. La première période intermédiaire, donc, qui a marqué l'époque du bronze moyen 1, a vu un effondrement de l'urbanisation qui avait eu lieu à l'époque du bronze ancien. Et on revient ici à une population où il y a quelques grandes villes, mais où essentiellement les populations sont des populations nomades ou semi-nomades. Quand on parle du nomadisme, il y a finalement deux types de nomades. Il y a le véritable nomade, qui ne s'installe jamais, qui vit essentiellement dans les déserts. Cela, à cette époque-là, on n'en parle pas dans la perspective qui est la nôtre, dans ce sens que ces nomades-là qui habitent le grand désert, le désert profond, ça veut dire le Sinaï, ça veut dire les déserts d'Arabie, les déserts de Transjordanie, les déserts de Syrie, etc., eux sont maintenus à distance. Quand l'État est fort, ils sont maintenus à distance pour ne pas pénétrer dans le pays fertile. Ce que l'on trouve dans le pays de Canaan à cette période-là, ce sont essentiellement des semi-nomades. Les semi-nomades, ce sont des gens qui habitent dans ce qu'on appelle le Midbar. Midbar, c'est, on traduit en général ce mot par désert. En fait, ce n'est pas le véritable désert, ce n'est pas le grand désert. Le Midbar, c'est un endroit de pâturage, essentiellement. Alors, évidemment, quand nous lisons le psaume 23, on a la photo là, c'est pas, il me conduit dans de verts pâturages. Bon, on voit les prairies normandes, etc. Bon, c'est pas ça, hein. C'est le désert, le Midbar, c'est une région où il y a une maigre végétation qui pousse, mais enfin qui est suffisante quand même pour élever le petit bétail. Et essentiellement, les semi-nomades sont des éleveurs de petit bétail. Le gros bétail ne peut pas vivre dans des conditions comme celle-là. Petit bétail, ça veut dire des chèvres et des brebis essentiellement. Et alors donc, l'été, lorsque justement les ouêtes sont à sec, ces gens-là nomadisent. C'est la transhumance d'été qui commence donc avec le printemps et puis qui se termine à la fin de l'automne. Quand viennent les pluies, alors là, évidemment, c'est différent. Là, le bédouin devient sédentaire. Il s'installe. Il s'installe dans un campement semi-permanent où il va cultiver. Il va faire une agriculture saisonnière, une agriculture d'hiver, profitant justement des régimes des pluies. Alors, où vont s'installer ces gens-là? Bien sûr, aux limites des déserts, c'est-à-dire justement, par exemple, la région de Beersheva, la région du nord du désert du Negev, et puis aussi dans les Midbar, ça veut dire dans les régions qui sont autour des villes. Les villes ont d'abord des endroits cultivés, et elles ont aussi ensuite des endroits en friche, une espèce de steppe, si vous voulez. Je crois que ce serait Midbar, ce serait plus juste de traduire par steppe, hein, c'est-à-dire une région de maigre végétation, mais enfin, il y a quand même suffisamment de végétation pour y faire paître des troupeaux, des petits bétails en tout cas. Et justement, les patriarches apparaissent comme étant de ce type-là, des gens qui vivent en dehors des villes. Il s'installe, Abraham s'installe autour de Sichem, autour de Bethel, autour de Beersheva, autour d'Hébron, etc., mais sans véritablement entrer à l'intérieur de ces villes. Maintenant, le Bédouin de cette période-là est est un homme, enfin oui, un type de société particulier, dans ce sens que, vu qu'il n'y a pas d'installation véritablement permanente, si ce n'est l'hiver, la société est une société essentiellement patriarcale. Patriarcale qui est composée de plusieurs strates. Tout à fait en bas de l'échelle, il y a ce qu'on appelle le Bet Av en hébreu. Bet Av. Bet Av, c'est un mot qui est très, très difficile à traduire. On traduit en général dans les versions comme Second ou même la Colombe, maison paternelle, ce qui est horrible, ça ne veut rien dire du tout. Bon, disons que le Bet Av, c'est grosso modo la famille nucléaire telle que nous la concevons aujourd'hui, c'est-à-dire le père et les enfants, le père, la mère et les enfants. Hein, bon, c'est ça le Bet Av. Plusieurs Bet Avot, hein, Bate Avot, forment une Mishpacha. La Mishpacha, c'est, on pourrait traduire le clan, je pense que ce serait peut-être la traduction la plus juste. Ça veut dire plusieurs Bate Avot qui se sont assemblés. La famille élargie, si on veut, quoi. La famille avec les grands-parents, les oncles, les tantes, les arrière-grands-parents éventuellement, etc. Et donc là, si vous voulez, les chefs des Bate Avot forment le conseil des anciens. Les anciens qui administrent le clan. Plusieurs Mishpachot forment la Shevet. Chevet, c'est la tribu. Voilà. Alors, c'est la même chose. La tribu est composée donc du rassemblement de plusieurs Mishpachot. Et là, donc, les chefs des Mishpachot forment le conseil de la tribu. Et plusieurs tribus ensemble forment ce qu'on appelle le Ham, le peuple. Le peuple, le mot Ham, au départ, c'est une notion patriarcale. Et alors justement, cette division qui donne une cohésion finalement à la société fait que là, on a la possibilité d'une survivance dans le désert, dans des conditions de transhumance, saisonnière, comme l'avons vu. Ça veut dire que l'individu isolé n'existe pas. L'individu a absolument besoin des autres pour pouvoir survivre. Et en principe, on se réfère toujours à une de ces structures. Un tel fils d'eux, hein, de la tribu d'eux, d'eux du clan d'eux, de la famille d'eux. Vous avez ça, par exemple, dans les généalogies bibliques, vous avez toujours un rappel, un tel, etc. C'est trois données. Quelquefois, on ne les donne pas toutes, mais enfin, disons, si on veut un état civil complet, on donnera justement tout cet ensemble. Alors, ça veut dire que l'individu, il est donc en principe membre de la tribu par naissance. Mais il peut y avoir des exceptions. Et on peut devenir membre de la tribu, par exemple, si on a été esclave. On achète des esclaves, ou bien des esclaves qui sont le fruit de campagnes militaires, de Redzou, hein, et qui deviennent esclaves. Et puis, au bout d'un temps, bien, on les affranchit. Puis les enfants qui naissent de ces esclaves, qui éventuellement peuvent se marier d'ailleurs avec une fille de la tribu, ça peut se faire. Hein. Ben, que voulez-vous, au bout d'une, deux, trois générations, sont considérés comme membres de la tribu. Sans en être obligatoirement les descendants biologiquement parlant. Ça, c'est très important de le préciser. Maintenant, il peut y avoir aussi une autre manière d'appartenir, non pas par naissance, mais par d'autres moyens, à la tribu. C'est par exemple un fugitif, quelqu'un qui, pour une raison ou pour une autre, doit s'enfuir. Eh bien, il est absolument indispensable qu'il trouve dans le désert à être accueilli. Sinon, encore une fois, il ne va pas survivre. Et vous savez qu'une des lois essentielles du désert jusqu'à nos jours, c'est la loi d'hospitalité. Vous avez remarqué certainement combien la Bible souligne l'importance de l'hospitalité. Abraham était réputé pour sa grande hospitalité. Les gens de Sodome ont été punis pour leur immoralité, mais aussi parce que non seulement ils n'ont pas exercé l'hospitalité qui est requise pour un étranger, mais également parce qu'ils ont voulu faire violence à des hôtes. Déjà, s'étaient comportés comme ça vis-à-vis de leurs concitoyens, c'était déjà grave. Mais si vous voulez, leur culpabilité était renforcée en ce sens qu'ils avaient essayé de violer des étrangers. Or, la personne de l'étranger est sacrée. Et aujourd'hui, si vous allez chez un bédouin, dans le désert, et que vous touchez le piquet de la tente, vous êtes son hôte. Vous êtes son hôte. Vous êtes un personnage sacré. Il va vous donner ce qu'il a de meilleur. Il va vous défendre au péril de sa vie, s'il le faut. Ça, c'est la loi du désert. C'est indispensable. Hein ? Et si quelqu'un touche à un seul cheveu de votre tête, alors toute la tribu va vous défendre. Bon, l'hôte, en principe, il est de passage, il s'en va. Mais il peut se faire que l'hôte demande à être intégré à la tribu. L'exemple typique, c'est celui de Moïse. Quand il fuit l'Égypte, justement, après avoir tué l'Égyptien. Et là, donc, il se rend chez Jéthro. Et, bon, il est accueilli. Vous vous souvenez que Jéthro reproche à ses filles. Comment vous avez rencontré un étranger? Vous ne l'avez pas invité. Et en plus de ça, cet étranger, il a pris votre défense contre les bédouins du désert. Et vous ne l'avez pas invité. Mais vous avez manqué à toutes les règles les plus élémentaires de la courtoisie du désert. Allez vite le rechercher. Et donc, Moïse est introduit chez Jéthro. Et puis, finalement, il est fugitif, il n'a aucun point de chute. Bon, ben, il s'intègre dans la tribu. Il devient membre de la tribu de Jéthro, il épouse la fille, et puis voilà. Hein. Il est considéré comme membre de la tribu. Et c'est la raison pour laquelle il ne faut pas croire que, finalement, tous ceux qui, comment dirais-je, portent le nom d'Israël dans la Bible sont des gens qui descendent biologiquement de Jacob. Hein. Il peut y avoir toutes sortes d'apports comme ça. Nous voyons, par exemple, le commandement de l'Exode. Il nous est dit qu'un ramassis de gens est sorti d'Égypte avec les Israélites, profitant justement de la délivrance dont ils avaient été l'objet. Ces gens sont des Égyptiens ou des esclaves de différentes origines d'ailleurs. Et puis on n'entend plus parler d'eux, si ce n'est justement pour dire qu'ils vont être une pierre d'achoppement pour les Israélites. Mais qu'est-ce qui se passe au moment de l'entrée dans la terre promise? Ben, ils sont intégrés dans différentes tribus. Ils sont considérés comme membres de ces tribus-là. Bon, il est évident, par exemple, qu'une tribu comme la tribu de Juda, quand on l'étudie à fond, on se rend compte qu'elle est composée d'éléments extrêmement disparates. Les Kenyans, les Kénisiens, enfin, toutes sortes de peuplades qui, manifestement, sont des peuplades nomades du désert, qui se sont intégrées à l'intérieur de la tribu de Juda pour toutes sortes de raisons, et notamment, justement, parce qu'elles ont profité de l'aubaine qu'a été la sortie d'Égypte pour s'intégrer, justement, au sein du peuple d'Israël. Bon, maintenant, il y a une autre institution aussi très intéressante en ce qui concerne le désert, c'est que il n'y a pas de police, bien sûr, dans le désert. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire en cas de problème? En cas de vol, en cas de viol et en cas de meurtre. Alors, il y a ce qu'on appelle un goël. Dans chaque tribu, il y a un goël. Goël... On peut traduire ça de différentes manières. Rédempteur, je crois que c'est en général comme ça. Ça vient du mot Géoula, donc la rédemption. C'est le rédempteur, celui qui rachète. Alors, par exemple, si quelqu'un a été fait prisonnier dans un redzou par une tribu adverse, et il est devenu esclave, le Goël doit tout faire pour le délivrer. Il doit le racheter éventuellement. Le Goël, en principe, c'est le plus proche parent. C'est à l'intérieur de chaque bête ave qu'il y a un Goël. Et il va faire tout ce qui est en son possible pour le ramener au sein de la tribu. Maintenant, l'individu en question peut ne pas seulement avoir été vendu comme esclave, il peut avoir été mis à mort. À ce moment-là, le goël devient le vengeur. Il doit venger. Il doit tuer le meurtrier. Vous savez, toutes les lois qui ont été données quand le peuple d'Israël est entré dans le pays promis, où il a été donc ce qu'on appelle le vengeur du sang, et bon, ça a été tempéré par les villes de refuge. Hein, villes de refuge, où celui qui s'était rendu coupable d'un homicide involontaire pouvait se réfugier. Autrement, le goël, le vengeur du sang, le rencontrait et le tuait. C'était la loi, c'est encore la loi du désert, en principe. Il n'y a pas si longtemps encore que ça se pratiquait. Bon, même chose si une femme a été violée. Et nous avons le cas, par exemple, de Dina. Vous vous souvenez quand Dina est arrivée, quand la famille de Jacob est arrivée à Sichem, Dina a été enlevée par Hamor, qui était le fils du roi de Sichem. qui a violé donc la jeune fille. Et donc, ses deux frères, Siméon et Lévi, sont allés la venger. Ils ont commencé, ils ont créé toute cette histoire de la circoncision, etc. Bon, c'était la loi du désert. Le vol, c'est pareil, on devait essayer de récupérer les biens qui avaient été pris, etc. Bon, aujourd'hui, bien sûr, ça se pratique plus tout à fait comme ça, parce que maintenant, il y a des lois de l'État qui sont au-dessus. Mais, par exemple, quand il y a des problèmes de ce type-là, alors il y a des compensations financières qui sont accordées. Et il y a des rencontres entre les anciens des deux tribus pour se mettre d'accord sur le prix du sang. Ça s'appelle ça le prix du sang. Je me souviens, quand j'avais été enquêté sur les Bédouins il y a plusieurs années, on avait pris rendez-vous pour un tel jour, et puis quand on est arrivé, les Bédouins nous ont dit « Écoutez, non, on ne peut pas vous recevoir aujourd'hui. On a eu un problème avec une tribu voisine. Il faut qu'on règle ce problème, c'est urgent, parce qu'autrement, c'est la tuerie entre les deux tribus. Alors, si ça ne vous ennuie pas, de revenir demain. » Donc, ça, c'est ce qui s'était produit. Bon, voilà. Alors, donc, pour la société du pays de Canaan, pour conclure, est essentiellement de ce type-là. Et en même temps, on voit que le pouvoir égyptien fait régner dans le pays de Canaan un ordre. Un ordre, comme on l'a vu la dernière fois, on le sait, par deux séries de ce qu'on appelle les textes d'exécration, je n'y reviens pas, ces petites statuettes, sur lesquelles étaient inscrites des malédictions, qui devaient atteindre les différentes tribus, et le nom des tribus est noté. Et ces statuettes était la garantie de la fidélité de ces tribus au pharaon. Et si une tribu violait le serment d'obéissance qu'elle avait fait au pharaon, alors le pharaon brisait la statuette, et selon le principe de l'envoûtement, etc., les malédictions qui étaient écrites sur la statuette étaient censées venir sur la tribu qui avait été infidèle à la parole donnée. Alors justement, l'existence de ces premiers textes d'exécration, qui datent donc du XXe siècle avant Jésus-Christ, nous montrent que le pays de Canaan était essentiellement un pays qui était peuplé de populations nomades de ce type-là, ou semi-nomades plus exactement, et en plus de ça, qui était un pays, comment dirais-je, paisible. Paisible. On pouvait se déplacer librement, où les problèmes, finalement, étaient peu nombreux, étaient résolus, notamment par le fait qu'il y avait ce réseau de garnisons égyptiennes qui était là pour maintenir l'ordre parmi toutes ces populations qui allaient et qui venaient. Bon. Autre confirmation de ce caractère paisible de ce pays, c'est que justement, les villes fortifiées sont peu nombreuses. Les villes fortifiées sont essentiellement les villes garnisons égyptiennes. Et on trouve par contre des villages, soit des villages permanents, par exemple dans les régions fertiles, dans les régions côtières, la vallée du Jourdain, bon, c'est un autre problème parce qu'elle est peuplée d'une jungle inextricable. Mais, par exemple, le lit du Yarkon, du Kishon et tous ces petits ruisseaux qui arrosent quand même un peu le pays d'Israël. Ou alors, justement, les villages saisonniers qui sont ceux des semi-nomades. C'est très intéressant de noter que les villages de ces nomades sont construits en cercle. Des maisons de pierres sèches qui sont construites en cercle, un petit peu comme les Bédouins, si vous voulez retrouver un petit peu le réflexe des pionniers du Far West, qui, vous savez, mettaient leur chariot en cercle pour se défendre contre les Indiens. Mais c'est un peu le même système qui était employé par ces gens-là, c'est pas pour se garantir des pillards du désert. On plaçait les habitations en rond, évidemment, avec des veilles, des gardes qui se succédaient même la nuit, justement, pour veiller à la sécurité. Et c'est intéressant aussi de noter que les maisons de ces Bédouins reproduisaient grosso modo la forme des tentes. Et peut-être d'ailleurs que certaines d'entre elles n'avaient que des murs et le toit était constitué par une toile de tente que l'on tendait l'hiver, quoi, tout simplement. Bon. D'autres avaient certainement des toits de branchage, enfin ça variait quoi. On a d'ailleurs des structures de ce type encore dans le Sinaï, on en avait en tout cas jusque dans les années 80 à peu près quoi. Et donc là, donc région paisible, 17e siècle, donc ici deuxième période du bronze moyen 2B, donc ici à partir de 1750, là la situation change du tout au tout. Là, on a au contraire une deuxième série de textes d'exécration, mais cette fois-ci, le nombre des tribus a considérablement diminué, et à la place, on trouve une augmentation énorme des villes fortifiées. Ça veut dire qu'il y a eu une urbanisation, une sédentarisation de ces tribus. Tribus pour deux raisons. La première, parce qu'il y a eu une mise en valeur du pays, il y a eu un développement de l'agriculture, du commerce, de l'industrie. Et deuxièmement, parce que la situation aussi a changé. Au lieu d'une situation paisible, de sécurité, il y a un affaiblissement donc, du pouvoir égyptien, manifestement, qui fait que l'insécurité, on peut dire, s'est installée dans le pays. Insécurité qui, selon la Bible, a aussi pour origine non seulement toujours le même problème, l'éternel problème de ces pays du Moyen-Orient jusqu'à nos jours, c'est-à-dire la pénétration des Bédouins dans le venant du désert, les vrais Bédouins cette fois-ci qui s'infiltrent dans le pays fertile, mais aussi parce qu'il y a des invasions qui sont venues de l'extérieur et notamment de Mésopotamie. Confère Genèse 14, l'expédition des cinq rois du Nord, notamment du roi d'Élam. Élam, c'est le nom biblique pour désigner la Babylonie. Hein. À peu près tous les historiens et archéologues aujourd'hui sont d'accord pour dire, avec le professeur Nelson Gluck, que le texte biblique est absolument historique. Bon, nous n'en avons jamais douté, nous, bien sûr, mais enfin, c'est intéressant de constater que tous les historiens et tous les archéologues sont absolument unanimes pour dire que cet épisode biblique est profondément historique. Il a laissé des traces d'une destruction extrêmement brutale, extrêmement violente, surtout le parcours que la Bible définit comme étant le parcours de ces rois qui sont venus du Nord et qui sont passés justement par la route du roi, ce qu'on appelle la route du roi, c'est-à-dire la route qui, partant de Damas, longe les crêtes de Transjordanie, c'est-à-dire du Golan, du Gilad, ensuite de d'Amon, de Moab, et puis des Dômes, hein, pour contourner la mer Morte par le sud, remonter donc du côté ouest de la mer Morte, et là donc mettre fin à l'existence de ces villes de la plaine, Sodome, Gomorre, etc., et éventuellement remonter aussi jusque dans la région de Beersheba et Arad, qui porte aussi des traces de destruction extrêmement importantes de cette période-là, traces d'incendie. Ces gens qui sont venus du Nord étaient de véritables sauvages, ça n'avait pas de problème. Hein. Et donc là, toute cette civilisation est brutalement détruite, mais alors de fond en comble. Hein. Et la civilisation qui renaît ensuite est une civilisation qui, manifestement, a tiré les leçons de ce qui s'est passé. Et toutes ces villes qui n'étaient pratiquement pas fortifiées jusqu'alors vont se garnir, à l'époque, justement, nous allons en parler dans un instant, de fortifications extrêmement importantes, et on pourrait dire absolument gigantesques, pour certaines d'entre elles. Donc ici, profondément, bouleversement pendant toute cette période. Mais la période, si vous voulez, de la 12e dynastie, 11e et 12e dynastie, c'est-à-dire grosso modo la période de l'apogée du Moyen Empire égyptien, est une période de paix et de prospérité pour le pays d'Israël. C'est la période, bien entendu, des patriarches. Patriarches, en tout cas, Abraham et Isaac. Et une période qui, justement, se prête parfaitement au fait que les patriarches peuvent nomadiser sans problème dans le pays d'Israël. On les voit se déplacer, voyager, aller de droite, de gauche, etc., sans aucun problème. Ça ne veut pas dire que de temps en temps, il n'y en a pas. Bon, il y a un Rezou par-ci, de toute façon, les Bédouins sont tous armés, c'est évident. Les semi-Bédouins sont tous armés, comme l'était Abraham, qui est capable de monter une expédition donc de 300 et quelques guerriers qui sont capables justement de mettre en déroute les troupes étrangères qui étaient venues du Nord. Ça aussi, c'est tout à fait cohérent avec ce que l'on sait justement de la civilisation de cette période. Maintenant, nous avons alors une autre civilisation extrêmement brillante qui va naître en Mésopotamie à la même époque. Nous avons vu que c'est la Renaissance babylonienne qui commence à partir du 20e siècle. Cette civilisation va être plus lente à démarrer à redémarrer, plus exactement, parce que c'est un redémarrage, qu'en Égypte. En Égypte, très vite, à partir de 1900, oui, ce sera la fin du siècle, disons, 1900-1880 à peu près, la civilisation égyptienne du Moyen Empire atteint son apogée, tandis qu'en Mésopotamie, c'est un petit peu différent. Différence aussi due au fait que la civilisation égyptienne est une civilisation unifiée. C'est un État unifié, centralisé, hiérarchisé, tandis que la Mésopotamie de cette période, en tout cas, n'est pas un État centralisé. Il y a différents centres qui vont naître, et deux grands centres en particulier. La basse Mésopotamie, qui va se regrouper autour de Babylone. Babylone qui est une ville ancienne, qui est essentiellement une ville sainte. Babylone, pour toutes les populations de l'époque, est la ville sainte par excellence. D'ailleurs, son nom akkadien, Bab-Ilin, signifie tout simplement la porte des dieux. C'est donc... là se trouve le fameux ziggourat, la tour à étages, la fameuse tour de Babel, qui est définie comme étant l'endroit, le temple du dieu du ciel et de la terre. Là, si vous voulez, se rencontrent le ciel et la terre, donc le monde des hommes et le monde des dieux. Donc depuis toujours et jusqu'à la fin de l'époque perse, jusqu'à la conquête d'Alexandre le Grand, grosso modo, et même après, Babylone restera pour les populations du Moyen-Orient la ville sainte par excellence. C'est d'ailleurs une des raisons aussi pour lesquelles elle est honnie dans la Bible, et elle est l'image jusque dans l'Apocalypse de l'idolâtrie, de la ville qui usurpe en quelque sorte la place de Dieu. Elle prétend être la terre promise, en quelque sorte, le lieu choisi par Dieu par les dieux pour y faire résider leur nom. Et par conséquent, elle est l'objet dans la Bible de toutes sortes de malédictions, non seulement parce qu'elle déporte, elle détruit Jérusalem, et c'est là que les Israélites finalement seront emmenés captifs, mais aussi justement à cause de ses prétentions à être justement cet endroit sacré, cet endroit saint par excellence, quoi. Mais justement, à cause de cette aura de sainteté qui est le sien, la ville de Babylone va être le point de départ de cette renaissance, de la basse Mésopotamie à partir du XIXe siècle. Il y a un autre centre beaucoup plus au nord, c'est toute la région de Haran, c'est-à-dire le Haut Euphrate, si vous voulez, la région de Mossoul, à peu près de nos jours, si vous voulez. Et là, donc, nous allons avoir des royaumes autres qui vont naître, notamment des royaumes amoréens. Les amoréens sont justement les descendants de ces bédouins du désert qui sont venus, donc amoréens, ce sont des sémites qui viennent de l'ouest, tandis que les acadiens sont les sémites de l'est. Et par exemple, Abraham, la famille d'Abraham, étaient des gens qui étaient en relation avec les Amoréens. Et bon, Abraham avait à la fois des origines araméennes et des origines amoréennes. C'était un mélange justement de ces deux composantes sémitiques qui se partageaient la Mésopotamie à cette période-là. Alors les Amoréens vont créer essentiellement un grand centre. Un centre extrêmement développé dans la ville de Marie, sur le Haut-Euphrate. Marie, ça s'écrit comme ça, à ne pas confondre avec la Vierge Marie. Il y en a qui font souvent le... Marie, c'est une ville qui a été découverte particulièrement dans les années 1935 par le professeur André Parot. Et là, notamment, dans des fouilles archéologiques qui ont été faites par les Français pendant de très nombreuses années, et qui ont permis de découvrir cette ville gigantesque qui se trouvait sur le Haut-Euphrate et qui est une ville amoréenne. À partir du XVIIIe siècle, la puissance montante a été... Bon, il y a eu un équilibre jusqu'au XVIIIe siècle entre justement la haute et la basse Mésopotamie. Puis à partir de la fin du XVIIIe, les rois de Babylone ont pris le dessus. Et c'est l'époque de l'apogée de Babylone, la grandeur de Babylone, avec le célèbre roi Hammurabi en particulier, qui va être le grand législateur, un des plus grands législateurs de l'époque, Et vous savez que son code, le code de Hammurabi, qui est gravé sur une stèle de basalte noir, a été retrouvé donc, dans les fouilles archéologiques qui ont eu lieu aussi à cette période-là, en Babylonie cette fois-ci, et se trouve au musée du Louvre. Hammurabi, donc, est un législateur, mais il y avait aussi donc, des États qui étaient indépendants, qui se trouvaient dans cette région-là, par exemple Eshnouna, l'État d'Eshnouna, l'État de la Lipi-Ishtar, etc. Nousi également, c'était un État qui se trouvait aussi au pied des montagnes de la Perse, enfin de l'Iran, quoi. Et tous ces États étaient en principe des États indépendants. Bon, c'était des États qui étaient les héritiers, justement, de toute la brillante civilisation akkado-sumérienne et qui avaient donc développé tout un ensemble d'éléments culturels extrêmement intéressants à cette période-là. Mais très vite, nous l'avons vu, le roi de Babylone va prendre le dessus. Et tous ces États vont devenir plus ou moins vassaux du roi de Babylonie et notamment, justement, de Hammurabi et de ses successeurs. Hammurabi va pousser ses pions jusque justement sur le Haut-Euphrate, et là il va s'emparer du royaume de Marie, qui à cette époque-là aussi est un petit peu en décadence, c'est beaucoup dire, mais enfin il n'a plus le rayonnement qu'il avait eu un siècle précédent, et il se trouve sous la direction de rois qui sont un petit peu moins, moins dynamiques que l'étaient les rois qui l'ont précédé, deux frères qui d'ailleurs sont un petit peu en bisbille pour le trône de la ville, Yasmar Adad et Ishmedagan. Si vous avez des noms à donner à vos enfants, je vous recommande. Ça va faire l'état civil, ça fera quelque chose de pas mal. Yasmar Adad. Ça veut dire Adad, le dieu, un des grands dieux du panthéon babylonien, qui sera d'ailleurs le Baal biblique, c'est en fin de compte Adad. Yasmar Adad, Adad se réjouira. Ishmedagan, bon, Dagan, c'est un autre dieu du panthéon aussi. Dagan, Dagon, il y a des questions aussi, vous savez, dans l'histoire de l'arche de l'Alliance qui est emportée à Ashdod. Dagan, Dagon, hein, c'est le dieu des récoltes. D'ailleurs, en hébreu moderne, enfin en hébreu biblique déjà, en hébreu moderne, le blé c'est Dagan. Hein. Dagon, ça vient aussi du dieu, c'est un dieu qui avait qui s'est présenté sous la forme d'un être qui avait une queue de poisson, parce que Dag aussi c'est le poisson. Hein. D'où les Philistins, qui étaient un peuple de la mer, avaient adopté ce dieu. Il n'était pas leur dieu originel, il n'était pas le dieu qu'ils avaient adopté les divinités des régions dans lesquelles ils étaient allés. Ishmael Dagan, que Dagan écoute la prière et qu'il bénisse donc celui qui porte ce nom. Et donc finalement, les deux frères qui étaient en bisbille pour le trône de Marie se sont tournés vers Hammurabi pour arbitrer leurs différends. C'est toujours très très délicat de faire ce genre de choses. Vous connaissez la fable de la fontaine. Et comme Ramina Grobis, de la fable de notre célèbre fabulier, Hammurabi a mis les deux frères d'accord en les croquant l'un et l'autre. Ça veut dire en s'emparant de Marie et en faisant de Marie donc un état vassal de Babylone. Donc ici, à partir de 1750, Marie devient vassal de Babylone. Mais finalement, Marie profite de cette évolution dans la mesure où, justement, elle devient un carrefour extrêmement important d'échanges commerciaux. Ça veut dire, comme on l'a vu tout à l'heure, que tout le commerce qui remonte par caravane depuis l'Inde, par le golfe Persique, qui arrive dans la région, justement, ici, de Bassora, de nos jours, qui remonte ensuite de Babylonie jusqu'à Marie, est redistribué à partir de Marie par caravane, soit en direction de l'ouest, ça veut dire soit en direction des villes phéniciennes, où ensuite il part par mer en Égypte ou même en Chypre. Bon, on commence aussi déjà à avoir des relations avec la Grèce à cette période-là, ou alors redescend aussi de Marie par caravane, en direction d'Israël, finalement, soit par la route du roi, et là, donc, en direction de l'Égypte aussi par des caravanes, ou bien même éventuellement aussi en direction de l'Arabie. L'Arabie, qui est alors la région d'Aden, si vous voulez, actuelle, qui commence déjà à cette période-là aussi à commercer avec tout ce vaste système du croissant fertile, et l'essentiel des productions de l'Arabie, ce sont les parfums. Les gens de cette région-là sont spécialisés dans la fabrication, la culture et la fabrication des parfums, la culture des plantes qui produisent des parfums. Et les parfums sont absolument indispensables à cette période-là pour les sacrifices dans les temples. Ça veut dire que chaque temple, et finalement chaque ville de quelque importance à son temple, a besoin de parfums. Autant dire que très vite, les habitants de l'Arabie qui produisent justement ces parfums, qui les exportent dans tout le Moyen-Orient, deviennent des gens qui roulent sur l'or. Et non seulement au sens figuré, mais également au sens propre, car il semble là que cette région soit bénie des dieux, toute cette région que la Bible appelle le pays de Havila, dont il est déjà question dans le premier chapitre de la Genèse, est un pays qui est réputé pour deux autres productions extrêmement importantes, l'or, justement, le pays de Havila est le pays où on trouve de l'or, nous dit le livre de la Genèse, et les pierres précieuses. Et c'est très intéressant de constater, je disais ces jours derniers, une étude récente qui a été effectuée justement par Mme Claire Epstein à l'époque chalcolithique, c'est-à-dire l'époque du troisième millénaire avant Jésus-Christ, et qui constate que ce commerce des parfums, des pierres précieuses, des pierres précieuses en tout cas, l'or moins, mais des parfums et pierres précieuses commencent à l'époque chalcolithique, à partir justement de ces régions du sud de l'Arabie et de la région qui voisine la côte de Djibouti, tout ça, quoi, de l'autre côté du détroit de Bab-el-Mandeb. Et là donc, alors qu'on est encore à une période, c'est la période des mégalithes, quoi, si vous voulez, la période de nos menhirs à nous, eh bien, si vous voulez, déjà, les gens de cette région-là exportent dans tout le Moyen-Orient des parfums et des pierres précieuses. Et alors donc, Marie va devenir une plaque tournante de tout ce commerce international qui passe par là. Parce que finalement, Marie se trouve au débouché des routes du désert. Quand on vient donc de Damas, Tadmor, et directement, on arrive à Marie. Bon, Marie va être un royaume extrêmement centralisé. Même quand il sera vassal ensuite de la Babylonie, finalement, ce vassalage n'est pas quelque chose qui touche beaucoup à sa manière de vivre. Et il y a donc tout un ensemble de garnisons très centralisées avec un réseau de routes, de courriers, etc., qui gardent les frontières. Et le professeur Parot a découvert, donc, dans les fouilles qu'il a effectuées dans ces années 30 du siècle dernier, les archives royales de Marie. Alors là, c'est une découverte les plus extraordinaires qui ait jamais été faite sur le plan archéologique, parce qu'on a découvert dans ces archives royales qui jouxtaient le palais du roi des milliers de tablettes cunéiformes qui étaient toutes les archives du royaume, depuis les origines jusqu'à l'effondrement du royaume de Marie, au moment de l'effondrement d'ailleurs de la Babylonie, ça veut dire à la fin de la deuxième période, au début de la deuxième période intermédiaire, c'est-à-dire à la fin du bronze moyen. Et là, vous trouvez alors des reçus de tout ce qui est passé par Marie. Tel jour, je sais pas, le poste frontière qui se trouve à tel endroit signale l'arrivée d'une caravane qui vient du pays de Madian et qui transporte tant de battes de parfums, d'huile, de ceci, de cela, etc. Bon, cette caravane est repartie quelques jours après à destination d'eux, etc. Enfin, tout est noté d'une manière extrêmement précise, quoi. Les reçus pour le palais du roi, pour alimenter la cour du roi, telle tribu a apporté l'impôt qu'elle devait au roi sous forme d'œufs en nature, alors tant de corps d'huile, de blé, de ceci, de cela, bon, etc. Mais aussi, c'est non seulement des archives économiques, mais aussi des archives diplomatiques. Le roi de Marie avait des relations, évidemment, avec tous les rois de l'Empire. On concluait des traités commerciaux, des traités d'alliance, des guerres. Si tout ça, c'est mentionné par le menu. Bon, c'est là qu'on connaît justement toutes les histoires, toutes les démêlées entre Hammurabi et les deux frères, parce que justement tout ça aussi, ça a été conservé très très précieusement dans les archives royales. Bon, l'arrivée de tribus. Par exemple, il y a une lettre extrêmement intéressante que le professeur Parot a souvent soulignée, c'est qu'une une garde qui se trouve dans la région de Haran signale au roi qu'une tribu qui vient de la région de la basse Mésopotamie, c'est la région de Bassora de nos jours, si vous voulez, la région d'Ur, demande à venir s'installer dans la région de Haran. Bon. Ces gens-là sont des tribus qui sont les adorateurs du dieu de la lune, le dieu Nanar, ou le dieu Sin, et ils demandent le droit de s'installer dans cette région. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on leur accorde cette autorisation ou est-ce qu'on les rejette ? Alors le roi demande des précisions, une enquête, qui sont ces gens ? C'est la tribu des Benjaminites, répond le responsable des douanes. Benjaminites, né Yamina, ça veut dire des gens qui viennent de la droite. Fils de la droite, ça veut dire Binyamin en hébreu, ça signifie fils de la droite, ça veut dire qu'ils viennent de la droite. Bon, à cette époque-là, les points cardinaux, on ne les désignait pas comme nous, est, ouest, nord, sud, on s'orientait face au nord aussi, et l'est était sur la droite, et l'ouest était sur la gauche. Donc, ceux qui venaient de la droite, c'est ceux qui venaient de l'est, et ceux qui étaient à gauche, c'était ceux qui allaient sur l'ouest. Donc, les fils de la droite, c'est ceux qui viennent justement de l'est. L'est, c'est la région dure. Et le professeur Parot dit voilà, l'ancienne tradition israélite, qui est extra-biblique et non du Midrash, nous dit que la famille d'Abraham, la famille de Terar, Terar c'est un nom qui est typique justement des adorateurs de la lune, et toute la tradition midrashique nous dit que Terar était un adorateur de la lune, un adorateur du dieu de la lune. Et donc ça correspond exactement avec ce que nous est dit, que la famille d'Abraham a quitté la région de Ur au moment de ces grandes migrations, de ces vagues des Amoréens qui commencent à partir de cette période-là, et sont venus justement s'installer dans la région de Haran. Ça correspond exactement avec cette lettre. Et le professeur Parot est persuadé qu'on a retrouvé là la trace archéologique de la migration d'Abraham, dont il est question, enfin de la famille d'Abraham, dont il est question justement dans la Bible. Et c'est de Haran, évidemment, que Abraham se met en route en direction du pays de Canaan. Autre lettre extrêmement intéressante, ou série de lettres extrêmement intéressantes qu'on trouve dans les archives de Marie, c'est une lettre qui indique que des traités, à la fois des traités commerciaux ou des traités diplomatiques, finalement, entre le roi de Marie et le roi de Hatsor en Haute-Galilée. Hatsor, dont il nous est dit plus tard dans le livre de Josué, qu'à cette période-là, une période ancienne, dit le texte biblique, Hatsor était la tête de tous ces royaumes, la capitale de tous ces royaumes. Nous aurons l'occasion de revenir justement sur Hatsor à cette période. Hatsor, qui était une ville considérable, effectivement, qui avait une population qui a à son apogée, peut-être pas encore à l'époque ici de la première période, ça veut dire du bronze moyen 2A, mais si vous voulez, à partir du bronze moyen 2B, la ville de Hatsor va avoir une population qui va avoisiner 40 000 habitants. C'est impensable, si vous voulez, à cette période-là. C'est une des villes les plus grandes du monde qu'il y avait à cette période. Donc Hatsor était une ville considérable, et cette ville avait des relations commerciales, diplomatiques, militaires également avec la ville de Marie. Notamment justement parmi les échanges commerciaux qui ont lieu entre la ville de Hatsor et la ville de Marie, il y a l'échange de chameaux. Vous savez que une des thèses de Finkenstein, c'est que le chameau n'existait pas à cette époque-là. Bon, pas de chance, justement, on trouve des mentions du chameau. C'est vrai, certainement, que le chameau n'était pas un animal très, très développé, et que le commerce par caravane, qui va fleurir beaucoup plus tard, n'avait pas encore atteint ce niveau à cette période-là. Mais enfin, de là à dire que le chameau n'existait pas, c'est aller beaucoup trop vite en besogne. Mais ça nous donne aussi une indication de la richesse d'Abraham, qui était quand même capable de mettre en ligne, si j'ose dire, 10 chameaux pour aller chercher la fiancée d'Isaac dans cette région, justement, en plus de ça. Bien. Où est une partie de la famille, les Benjaminites, étaient restés. La famille de Laban était donc aussi une famille qui était venue à la période de cette migration-là, qui s'était établie dans la région de la ville de Marie. Bon, autre élément aussi tout à fait intéressant, c'est que ces lettres de Marie sont écrites en acadien. L'acadien, donc, en cunéiforme, et l'acadien qui était la langue diplomatique de l'époque. Cette langue, on la retrouve également parlée en Égypte. On aura l'occasion d'y revenir. C'est une langue qui va être en vigueur pour les échanges diplomatiques et donc commerciaux, enfin les échanges internationaux, disons d'une manière générale, jusqu'à ce qu'elle soit supplantée par l'araméen à partir du 8e siècle environ, 8e siècle avant Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'elle va avoir une fortune considérable, cette langue acadienne. Mais la langue acadienne, manifestement, n'est pas la langue des habitants de Marie. Et les habitants de Marie, donc, qui écrivent, font des fautes. Quelquefois, il leur manque un mot. et où ils ne se fatiguent pas. Il y a un mot qui leur manque, ils l'écrivent dans leur langue, tout simplement. Tant et si bien que l'on peut, en prenant justement ces erreurs qui ont été faites par les scribes acadiens, et par conséquent de mettre ici des mots, des expressions, quelquefois des phrases entières dans leur langue, nous permet de reconstituer ce qu'était la langue de Marie. Et la langue de Marie, c'est une langue très intéressante, c'est un dialecte proche de l'hébreu. C'était grosso modo vraisemblablement la langue des patriarches. Et de l'hébreu biblique, l'hébreu classique qu'on trouve dans la Bible, finalement, est un dérivé de cette langue, qui est un mélange du proto-hébreu, pourrait-on dire, et puis finalement aussi de l'acadien lui-même, enfin disons des langues de Mésopotamie. Par exemple, prophète se dit en hébreu Navi, et dans la langue de Marie, c'est Nabou. Bon, voilà, ça, c'est des exemples qui montrent que là, on est dans une langue extrêmement proche. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est de noter que les coutumes de Marie ressemblent aussi énormément aux coutumes qui sont celles de la Bible. Par exemple, bon, déjà, on trouve ça dans les codes mésopotamiens, c'est presque général à tous les codes, que ce soit le code de Hammurabi, que ce soit le code de Lipi-Dishtar, d'Eshnouna, etc., de Nuzi, les lois de Nuzi, surtout, n'est-ce pas ? Si un homme n'a pas de sa femme légitime d'enfant, cette femme peut prendre sur elle l'initiative de donner à son mari une de ses servantes, une de ses esclaves, et l'enfant qui naît de cette femme, de cette concubine, enfin de cette servante, est considéré comme le fils de la femme légitime. Confère donc l'histoire de Sarah et d'Agar et la naissance d'Ismaël. Hein, vous avez des choses comme ça. Bon, vous avez aussi un autre exemple que l'on trouve aussi à cette période-là, c'est que un homme ne peut pas épouser la fille cadette sans avoir pris aussi comme épouse la sœur aînée. C'est à cette coutume que l'avant se réfère quand il trompe Jacob qui voulait épouser Rachel, et puis il lui donne d'abord Léa, puis il lui dit ensuite tu auras Rachel, tu auras l'autre après, quoi. Bon, ça c'est effectivement c'est conforme aux lois de l'époque. Aussi autre détail qu'on trouve aussi dans la Bible, le fait que lorsque un homme épouse une jeune fille, les parents de cette jeune fille donnent à cette jeune fille une servante qui va s'occuper d'elle. Hein. Surtout si la jeune fille est amenée à quitter son pays pour aller dans un pays assez lointain, ce qui était le cas de Rebecca. Et alors donc, il nous est dit que Rebecca est accompagnée de sa nourrice, Déborah. Hein. Sa nourrice Déborah qui va l'accompagner jusque pendant très longtemps, puisqu'elle mourra au moment du retour de Jacob, ça veut dire 14 ans après le retour de Jacob, après la fuite de Jacob, je veux dire. Alors, la servante en question peut être soit justement une nourrice, pour que souvent les jeunes filles se mariaient très jeunes à cette période-là, dès l'âge après la puberté, quoi. Hein. Bon, alors pour qu'elles ne soient pas trop dépaysées, ça nourrisse l'accompagner. Quitte ailleurs à rester plusieurs années, puis après, si tout allait bien, elle pouvait rentrer chez elle. Ou bien alors, une jeune servante de son âge. Ce qui est le cas, par exemple, quand justement Jacob épouse Léa et Rachel, où Léa et Rachel reçoivent de leur père, en cadeau, si j'ose dire, les servantes Bila et Zilpa, qui deviendront les concubines aussi de Jacob, selon le jeu, justement, des lois de Nuzi dont nous avons parlé tout à l'heure. Donc ici, on trouve ces coutumes qui sont les coutumes de la Bible, qui montrent à quel point, justement, l'histoire des patriarches s'enracine dans toutes ces coutumes du royaume de Marie, qui ont permis de jeter une lumière tout à fait nouvelle, justement, sur l'époque des patriarches, si bien que nous n'avons pas une preuve directe, archéologiquement parlant, si vous voulez, qui nous confirme l'existence historique des patriarches. On ne va pas retrouver, si vous voulez, la photo d'identité d'Isaac et ni celle de Rebecca, c'est évident, quoi. Hein. Mais enfin, disons, là, on a tout un environnement qui nous montre que là, on est à fond dans la couleur locale de l'époque, quoi. Des lois qui, ensuite, n'ont plus eu du tout cours et qui étaient condamnées par la Bible d'une manière ultérieure, parce que un homme ne pouvait pas, justement, épouser sa demi-sœur, comme l'a fait Abraham. C'est interdit par les lois du Lévitique. Bon, ça se faisait couramment, justement, dans cette période-là. Donc la Bible adopte ça, dit qu'Abraham avait épousé sa demi-sœur. Bon, ça ne lui pose pas de problème, il n'y a pas un mot de condamnation. Hein. Alors que, en principe, d'après les lois de Moïse, les lois qui viendront beaucoup plus tard, ce type de mariage est interdit. Donc là, nous sommes à fond dans des confirmations indirectes, si j'ose dire, de la vérité historique des récits des patriarches. Maintenant, il y a un autre point tout à fait intéressant aussi, c'est l'aspect religieux. Bon, les gens de Marie sont des idolâtres, on veut qu'ils adorent les grandes divinités babyloniennes, Adad en particulier, Dagan. Nous avons aussi des divinités locales, un dieu qui s'appelle Lim, par exemple, il y a des rois qui s'appellent Zimri Lim, qui était le dernier roi de Marie, justement, avant la destruction de la ville. On a retrouvé sa statuette, elle est au musée du Louvre, je ne sais pas, on va voir. Les gens de Marie sont très typés, ils ont des espèces de pagnes, torse nu, des pagnes qui descendent, des espèces de jupes qui descendent sur les talons assez bas, des cheveux longs, et puis souvent les statuettes des rois sont représentées donc avec un geste d'offrande à la divinité. Et par exemple, la statuette du roi Zimri Lim porte cette inscription écrite, n'est-ce pas ? On peut déchiffrer « Je suis Zimri Lim, roi de Marie ». Il y avait aussi mon Shamshi Adad, ça c'est un autre. Il y avait, j'ai oublié le nom du deuxième. Bon, enfin, il y avait des divinités locales, il y avait des divinités d'importation. Sin, Nanar, le roi, donc Ishtar, qui était une déesse, la déesse de la guerre, une déesse de la Vénus, si vous voulez, de l'époque, la prostituée sacrée, finalement, donc déesse de l'amour, mais déesse de la guerre aussi. C'était une déesse extrêmement cruelle qui se baignait dans le sang de ses ennemis qu'elle avait tués, enfin des choses comme ça, enfin sympathique quoi. Toutes ces divinités, c'était le polythéisme le plus classique. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'alors que justement en Babylonie ou autre endroit, vous savez, l'art divinatoire était très développé. En Babylonie, il avait deux axes. Il avait d'une part les observations des étoiles, l'astrologie. Donc les Babyloniens sont les inventeurs de l'astrologie et les astrologues babyloniens jusqu'à l'époque de Jésus, finalement, étaient très réputés. Les mages, de récits de Noël, sont un petit peu les héritiers de toute cette longue tradition astrologique babylonienne. Mais aussi, il y avait d'autres méthodes de divination, c'était l'hématoscopie. Ça veut dire l'examen des foies des sacrifices. On offrait des animaux. Et alors, on a retrouvé, par exemple, dans cette période-là, des maquettes de foies d'animaux. Alors, en disant si le foie est comme ci, comme ça, ça veut dire ceci, ça veut dire cela. Enfin, c'était des codes pour les prêtres qui interprétaient, qui étaient chargés d'interpréter donc les entrailles des victimes. Bon, vous savez que les Romains aussi auront cette manière de divination, du moins jusqu'à une période relativement récente finalement. Mais on ne trouve pas beaucoup ces coutumes à Marie. À Marie, ce qui est frappant, c'est le fait que on a des prophètes. Des prophètes qui ont deux fonctions. D'ailleurs, c'est le mot qui est employé, Nabou, on a vu tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est presque le même mot que la Bible. Et la racine du mot, c'est les avis, ceux qui apportent, ceux qui communiquent une parole de Dieu. Ceux qui reçoivent une parole de Dieu et qui communiquent une parole de Dieu. Alors, l'oracle prophétique à Marie se produit de deux manières. Soit par des rêves. Alors, par exemple, tel prophète écrit au roi, Dagan m'est apparu cette nuit. Et voici ce qu'il dit au roi. Il a dit, tu diras à mon serviteur, le roi, tu lui diras de ne pas craindre ses ennemis. Dans un an, je lui donnerai la victoire, etc. Il y a même des prophétesses, des femmes aussi, écrivent au roi en disant qu'elles ont eu des rêves, etc. Bon, autre manière aussi de connaître l'avenir, on peut consulter le Seigneur, enfin les dieux du moins, en disant, ben voilà, j'ai eu tel rêve, alors qu'est-ce que ça veut dire? Et justement, ben les prêtres prophètes, souvent la prêtrise est associée justement avec la prophétie, interprètent les rêves, exactement comme Joseph faisait par exemple en Égypte. Bon, ou alors il y a tout simplement une parole directe. Ainsi parle Dagan. Hein, au serviteur. Et c'est très intéressant de voir que les prophètes sont des gens qui ont accès auprès du roi. Ils peuvent interpeller le roi au nom des dieux, dire attention, voilà ce que un encouragement, une réprimande, etc., etc. Donc là, si vous voulez, on a des similitudes entre la prophétie biblique et la prophétie à Marie, ce qui montre que là, on est dans une culture, finalement, qui ressemble énormément à la culture hébraïque. Évidemment, la prophétie à Marie sera une fausse prophétie, bien évidemment, puisque ce n'est pas quelque chose qui se fait à partir de l'Éternel. Mais finalement, Abraham va être qualifié de prophète. Abraham aussi, le Seigneur lui apparaît, le Seigneur lui parle, le Seigneur lui donne aussi des rêves, des signes, etc. Bon, comme il le fera ensuite avec tous les autres patriarches, nous l'avons vu jusqu'à Joseph. Donc, si vous voulez, cette civilisation de Marie va être une grande civilisation qui va jouer un rôle capital pour la formation du peuple d'Israël et finalement pour la formation de ce qu'on appelle l'âge patriarcal. Et finalement, cette période du bronze moyen 2a est la grande période de la formation du peuple d'Israël, ce qu'on pourrait appeler la préhistoire du peuple d'Israël. Bon, voilà, on va s'arrêter là pour ce soir. Est-ce que vous avez des questions à poser là-dessus ? Oui. Non, il est parti d'abord avec sa famille. Il est parti d'Ur jusqu'à Haran. Et c'est à Haran que le Seigneur s'est révélé à lui et lui a dit « Quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père. »
Je crois justement que ça m'avait choqué justement parce que direction de Canaan, pourtant j'avais cru lire ça, en direction de Canaan et il arrive à Haran.
Vous avez une Bible, quelqu'un, on va revérifier. Chapitre 11. Il y a toute la généalogie d'Abraham.
Le problème entre le verset 27 à 32 du chapitre 11 et du chapitre 12.
Oui, au revoir. Ouais. Au revoir. C'est vraiment... Il faut regarder ce que dit Rachid là-dessus, parce que justement, ces problèmes-là, Rachid, c'est un génie à les expliquer. Alors, nous disons... voilà. La postérité de Shem, voici la postérité de Terar. Terar engendra Abraham, Nahor et Haran. Haran engendra l'autre. Haran mourut en présence de son père Terar, au pays de sa naissance, à Ur des Chaldéens. Donc c'est clair. Abraham et Nahor se marièrent, la femme d'Abraham, bon, etc. Sarah. Alors, Terar prit son fils Abraham, son petit-fils Lot, fils de Haran et sa belle-fille Sarah, la femme d'Abraham. Ils sortirent ensemble d'Ur des Chaldéens pour se rendre au pays de Canaan. Oui. Ils arrivèrent à Haran et ils y habitaient. Donc ils se sont arrêtés en route, quoi. Ah ben c'était la route. Ah c'était la route ça. Ah ben non, tu autrement fait traverser le désert. Tu pouvais pas. C'était hors de question. Ah non c'était la route normale. Ah oui. Bon ça c'était le courant de toutes les grandes migrations qui marquent la fin justement de l'époque du bronze moyen 1. Hein. Donc la vague des Amoréens, ce qu'on appelle la vague des Amoréens. Et donc selon ce que le professeur Parot, la tablette. Bon, ben, ils se sont arrêtés à Haran, quoi. Et puis ensuite, donc, le Seigneur lui a dit, maintenant, toi, va-t'en. Et une partie de la famille qui est restée, quoi. La famille, toute la branche d'où était issu Laban, que nous retrouvons ensuite lorsque Jacob revient là-bas dans ce pays, quoi.
Mais Abraham a quand même reçu la parole d'aller à Canaan, à Ur. Dieu lui
dira plus tard, je suis l'Éternel qui s'est fait sortir d'Ur des Chaldéens. Bon, comment est-ce que lui a fait ? Alors, est-ce que vraiment Dieu s'est révélé à lui dans le pays d'Ur ? Je ne connais pas de verset qui le dise d'une manière expresse. Je t'ai fait sortir, peut-être, je t'ai mis à cœur, quoi. Je t'ai mis à cœur, à toi, à ta famille, de quitter Ur des Chaldéens, quoi. Ur, c'est très intéressant, parce que Ur, aussi en hébreu, ça signifie la fournaise. Et il y a tout un midrash qui est un midrash qu'on ne peut pas prendre pour historique obligatoirement, justement sur ce jeu de mots. Ur des Chaldéens. Est-ce que, justement, ça signifierait que les difficultés étaient telles pour la famille qu'ils avaient... C'était devenu une espèce de fournaise. En tout cas, il y a ce midrash sur lequel Abraham, justement, parce qu'il était fidèle, il ne voulait pas adorer les idoles, a été jeté dans la fournaise ardente comme les amis de Daniel, beaucoup plus tard, et qu'il en est sorti vivant. « Je t'ai fait sortir de la fournaise des Chaldéens. » On peut traduire comme ça. Hein. « Je t'ai fait sortir de la fournaise des Chaldéens. » Bon, je pense qu'il ne faut pas pousser trop loin, mais ça pourrait laisser entendre, ce verset, que la situation était devenue intenable pour la famille d'Abraham à Haran et qu'ils avaient donc dû partir, quoi. Ils avaient dû partir. Bien, on va rester là.